intérieur. En soi et chez soi. Une émission de Daniel Fazan.
Encore un peu de circulation ce soir à 23h03 ici à Clarens. Bienvenue à Clarens-Montreux, dans un endroit absolument superbe. Il faut que je vous dise d'abord qu'une émission, c'est simple. Il faut d'abord quelqu'un qui soit suffisamment curieux, un auditeur. Il faut quelqu'un de suffisamment curieux, un intervieweur. Il faut un sujet intéressant, un cadre extraordinaire. Le voici, ce cadre. C'est la Villa Murillo à Clarens-Montreux. C'est une galerie, la galerie Plexus, qui nous a été ouverte ce soir par Bernard Chassot, qui préside à sa destinée. Cette maison 1900 est superbe. L'éclairage en place maintenant permet de voir, quand vous le voudrez, des œuvres de peinture. Alors, la peinture, oui, c'est le nom générique, mais en réalité, il s'agit de pastels la plupart du temps. Et ces pastels sont peints par Jacques Biollet, la cinquantaine, un petit peu plus, des enfants, des fillettes qu'il adore. Et puis, ce peintre fribourgeois travaille depuis tellement d'années sur le pastel. Il fait des grandes œuvres qui sont toutes derrière des verres, évidemment, parce qu'il y a une grande fragilité du pastel. Des œuvres muettes, gentilles, belles, enivrantes, quelquefois décoratives. On en parlera avec Jacques Biollet. Je vais frapper à la porte de la Villa Murillo, ici, à Clarens-Montreux, et certainement que Jacques Biollet va nous ouvrir pour nous faire visiter à la fois cette exposition sur deux étages, mais aussi son œuvre, sa vie et son travail. Je vais pousser la porte. Oh, mais il arrive ! Jacques Biollet, bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Très bien, Daniel.
Alors, on se connaît depuis quelques années, j'aime beaucoup votre travail. Je lui ai trouvé souvent des aspects décoratifs, mais il y a toujours une extraordinaire virtuosité dans votre travail. Premier tableau ici, dans l'entrée, oui. Dans cette Villa Murillo.
Oui.
C'est extraordinaire d'exposer ici.
C'est un très beau lieu donc, qui est animé depuis un peu plus d'une année par Bernard Chassot. C'est la galerie Plexus. Effectivement, c'est un privilège de pouvoir exposer dans un lieu si majestueux, si beau, au bord du lac.
Alors, c'est un lieu 1900, et votre peinture intemporelle a des évocations très souvent 1900.
Ah, je suis heureux de vous l'entendre dire. Il y a beaucoup de peintres au tournant du siècle qui étaient des peintres formidables. Je pense en particulier à Klimt, dont on parle en ce moment. Effectivement, il y a beaucoup de peintres qui, au tournant du siècle, ont développé des œuvres merveilleuses.
Alors, il y a des femmes, souvent, des sujets féminins, qui sont des femmes intemporelles. Et ça, j'insiste là-dessus, parce qu'elles sont belles, 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 mais on ne peut pas dire ni des années 50, ni des années 30, ni des années 2000.
Il est vrai que quand on voit certains tableaux, par exemple, qui ont été peints dans les années 30, on remarque un certain type de femme par rapport à la coiffure, par rapport à la tenue. Mais je suis persuadé que dans les années 1930, quand elles ont été peintes, ça ne se remarquait pas. Elles étaient peut-être intemporelles. Alors, de mon côté, j'aime bien que les choses ne soient pas, marquées par une époque, par le vêtement ou la posture. J'essaie de m'extirper un petit peu de cet entourage, si on veut, social ou sociologique. J'essaie d'aller un petit peu au-delà pour présenter peut-être pas la femme d'aujourd'hui, ça ne m'intéresse peut-être moins, mais la féminité, tout simplement. La féminité qui, elle, est, comme vous dites, intemporelle ou éternelle, et c'est elle qui nous fascine.
Jacques Biollet, ici, ce tableau dans l'entrée, qui va rentrer dans une collection particulière, puisque même s'il est exposé jusqu'au 22 avril ici, va disparaître, enfin, il va vivre ailleurs, plus exactement. Il va vous manquer ?
Alors là, vous posez la question de ce qu'on peut posséder. Et bien sûr, quand on fait le tableau, il y a un moment peut-être où il nous appartient, ou il nous appartient comme un défi d'ailleurs. Et une fois qu'il est terminé, il est vrai qu'il y a une petite période peut-être de quelques semaines où ça fait partie de notre univers. Il ne s'agirait pas de s'en séparer parce qu'il y a peut-être encore à travailler dessus. Mais dès lors que le tableau est encadré, dès lors que le tableau va dans une galerie, il n'appartient plus à l'artiste. À mon avis, donc je n'ai pas trop de problèmes. Ce qui nous appartient, c'est le prochain tableau.
Ah oui, mais qu'il faudra faire et avec bonheur.
Voilà, mais ça peut sembler être une plaisanterie, mais en réalité, ce qui nous appartient, c'est le défi permanent d'aller au-delà de ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait est important, c'est peut-être un socle, un promontoire pour aller plus loin, mais posséder, ça ne sert pas à grand-chose. Et comme vous le savez, d'ailleurs, il paraît que nous ne sommes pas éternels. Et
il paraît, j'en ai entendu parler.
Oui, récemment, on m'en a parlé. Et donc, tout ce que nous avons possédé ou tenu entre nos mains, tout ce qui a compté pour nous, on devra à un moment donné s'en séparer. Alors, voilà, il ne faut pas s'attacher à quoi que ce soit, je crois, de matériel.
Alors, c'est étonnant que vous parliez de ça et que nous parlions de possession d'œuvres d'art, puisque j'ai découvert une de vos œuvres que je connaissais très bien, puisqu'elles sont reproduites dans certains ouvrages écrits par des amis, dont j'ai signé quelquefois une ligne ou deux, mais cette œuvre-là, je l'avais dans l'œil. Et un jour, je la perçois, cette œuvre, chez une amie qui l'achète lors d'une succession. Et elle l'a pas payé cher, elle est tombée totalement amoureuse, et puis c'est dans un lieu, dans sa maison, elle a un goût extrême, magnifique, et cette œuvre, pour une bouchée de pain, n'a pas suivi la personne décédée, et cette succession lui a permis, elle, d'obtenir et d'avoir chez elle et d'héberger quelques années encore, évidemment le plus longtemps possible, cette œuvre. Donc une œuvre, elle peut vivre plusieurs amours échangés.
Oui, effectivement, il y a des fois des successions. J'ai vu une vente aux enchères à Fribourg qui a battu tous les records en matière de prix très bas. Alors, il y a des gens qui sont à l'affût de ce genre de vente. Mais pour répondre à votre question, effectivement, une œuvre nous survit. Elle peut connaître différentes adoptions. Quand quelqu'un achète un tableau, la personne qui achète, je la vois plutôt comme un père ou une mère adoptive d'une œuvre. Et vous parliez avant...
Un passeur ?
Oui, vous parliez avant peut-être de la dépossession, de la tristesse de ne plus posséder. Oui, mais moi, je ne possède plus l'œuvre, mais j'ai le bonheur de voir que l'œuvre a été adoptée par quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux, finalement, que l'œuvre poursuive sa vie avec un autre regard, une autre personne. Et d'ailleurs, ce qui est fascinant parfois pour le peintre, c'est d'arriver chez quelqu'un et de découvrir une œuvre qu'on avait un petit peu oubliée, qui date de 20 ou 25 ans. Et puis, vous pouvez à ce moment-là la regarder comme si vous ne l'aviez pas faite pratiquement. Et vous dire avec un recul qui est formidable, mais tiens, ça c'est pas si mal ça, ou bien alors, ah non, voilà, d'avoir un regard un petit peu distancié parce que l'œuvre vous l'avez oubliée, mais elle n'a pas été oubliée, elle a été vue par quelqu'un qui a vécu avec, donc la personne qui vit avec a peut-être plus vécu avec ce tableau que vous-même d'ailleurs.
Jacques Biollet, on est devant cette œuvre que vous allez nous commenter, parce qu'il y en a des dizaines ici dans la galerie Plexus.
Oui, il y en a mais 80 à peu près.
Ouais, c'est extraordinaire, c'est un panorama de votre travail. On dit que de vous que vous êtes peintre et vous dites un peintre, mais êtes-vous plutôt davantage un pastelliste ?
Alors j'ai connu la passion pour la peinture en 1975 à travers la peinture à l'huile, donc c'est de là que je viens. De 1975 à 1990, c'était ma passion, la peinture à l'huile.
Et il y en a deux d'ailleurs ici.
Il y a deux, oui, il y a deux peintures à l'huile. Et à partir de 1990, je suis tombé, si on peut dire ça, dans quelque chose que je n'aurais pas soupçonné, qui est le pastel. Avec une technique personnelle que j'appelle pastel et gouache. Et cette passion ne me lâche pas depuis plus de 20 ans maintenant. Quand elle m'a prise, cette passion, je ne savais pas si elle allait durer 6 mois ou 8 mois. On ne sait pas combien dure une passion. Et finalement, cette passion m'habite beaucoup. Et quand je reviens à la peinture à l'huile, parce que parfois on me commande un tableau peinture à l'huile, j'aime toujours cette technique puisque c'est l'origine de ma passion, mais elle ne me donne pas les mêmes moyens expressifs que le pastel. Donc je lui suis fidèle à ce moyen parce qu'il m'apporte beaucoup.
Alors, on parlera du grain très spécifique de votre travail. Ici, le sujet, une femme, un buste nu avec une position de main, etc. Une femme à gauche, une femme à droite. Commentez-nous cette œuvre qu'on pourra voir dans cette entrée, puis ensuite on ira voir les autres.
Alors là, il y a donc une triple présence. Trois personnes, trois femmes. Effectivement, la première, son buste est dénudé. Les deux autres sont vêtues. Et il y a une sorte d'architecture puisqu'il y a une courbe, une ogive au-dessus. Vous voyez qu'il y a aussi une verticale qui est au-dessus du premier personnage. Donc c'est un mélange pour moi de fantaisie, de courbe, de sensualité et puis aussi d'équilibre. Vous voyez,
ces femmes sont souvent des cariatides en quelque sorte de vos œuvres.
Oui, j'aime beaucoup pour donner un point de repère, l'art égyptien, vous voyez, où il y a aussi des courbes, il y a une sensualité, mais il y a une élégance, il y a une force, il y a une puissance, il y a une verticalité. Voilà ce qui me plaît beaucoup. Parfois, il peut y avoir de la sensualité, de la fantaisie, mais quand en plus, dans certaines œuvres, il y a un côté hiératique, un côté où il y a une grande dignité, où il y a une force, une puissance, quand la puissance s'allie à la souplesse, à la tendresse, à l'émotion, alors pour moi, ça, c'est beaucoup plus fort. Donc, si je prends ce tableau, humblement, j'essaye de convoquer à la fois la douceur, la rondeur et quelque chose de plus solide, de plus vertical, de plus fort.
Il y a quelque chose de très sculptural aussi dans ces personnages hiératiques. Ici, une sculpture de Miotte et vos œuvres. Alors, on va passer dans une autre pièce. Jacques Biollet, vous allez nous commenter. Voilà. Alors, là, je vous attire ici parce que on va parler juste en quelques phrases, et on y reviendra tout à l'heure, du côté coloriste aussi, du pastelliste que vous êtes, c'est-à-dire cette extraordinaire puissance colorée qui vous rattache, je dirais, aux expressionnistes, les couleurs pures, les violets, les cyans, les bleus, et puis les oranges. Il y a quelque chose de provocateur presque dans la couleur.
Oui, moi j'ai l'impression, je vais vous contredire, d'être très mesuré dans mes couleurs.
Allez.
Oui, oui. Et quand on dit peintre, d'ailleurs, on dit je suis peintre, je pourrais dire je suis coloriste, plus que, oui, parce que le peintre c'est l'homme des formes, mais c'est aussi l'homme des couleurs. Et je parlais de la technique. Vous voyez, quand on travaille en peinture à l'huile, on travaille par couches successives, et si vous voulez mettre un bleu sur un vert, vous devrez attendre que ça sèche, etc. Le pastel permet une juxtaposition de tons, à la manière un peu du pointilliste, vous voyez, où par des hachures ou des stries, on peut juxtaposer un ton chaud et un ton froid sans qu'il y ait de problème de séchage. Alors il y a une vibration qui émane de ça. Par exemple, si vous voyez un bleu ou ce mauve qui est ici, derrière ce bleu ou ce mauve, il y a trois ou quatre tons différents.
Mais ils sont perceptibles.
C'est-à-dire que vous voyez la dernière couche, mais la dernière couche vit ou vibre ou est exaltée par ce qu'il y a avant. C'est la même chose en peinture à l'huile. La Joconde, par exemple, on a dénombré, je crois, 26 couches. Vous ne voyez que la dernière, mais les 25 autres, en transparence, agissent sur la dernière. Et au niveau du pastel, il y a quelque chose d'un peu semblable, même si c'est différent, où des vibrations sont obtenues par des tons différents qui ont été superposés par couches. Dans un ton clair, en particulier dans les tons clairs, il y a eu 6 ou 7 tons plus sombres. On passe du sombre au toujours plus clair. Et je me dis toujours, je monte vers la lumière. Vous voyez, je monte vers la lumière couche par couche.
Et cette lumière, c'est aussi la force du pastel. C'est-à-dire qu'on peut mettre... Le pastel, il faut aussi imaginer que c'est de la craie. En quelque sorte, c'est ça. Et on apporte du... On peut poser du clair sur du sombre, sur du noir. C'est un peu comme le tableau noir.
Non, là, vous y allez un peu fort. C'est très, très délicat. On passe, par exemple, pour faire la couleur de la peau, d'un ton un peu brunâtre à un ton ocre, à un ton terre de sienne, à un ton terre d'ocre. Vous voyez, c'est petit à petit qu'on monte les escaliers vers la lumière. Mais il faut y aller petit à petit. Si vous manquez un escalier, vous tombez.
Ah ouais, excusez-moi. Alors, Frédéric Recrozieux, notre ami, nous dit, pourquoi pas, très belle chanson de son livre CD, chanson forte, et son livre est drôle comme tout, mais son CD est grave, et il s'appelle On bouge encore, c'est pourquoi pas Frédéric Recrozieux.
Intérieur sur la première.
Pourquoi pas revenir à ces petits jours de grande chance, mâcher le bleu des souvenirs que l'on relance. Pourquoi pas frôler l'amour de nos premiers face à face, tant pis pour l'agonie des mots qui passent. Pourquoi pas refaire le troc des jours que tu m'as donné, glisser dans les remous de la grande traversée. Pourquoi pas refaire encore la moisson de nos misères, l'humour aux lèvres collé au rebord de nos verres. Pourquoi pas chanter plus fort que le saboteur qui est en soi,
bannir la peur de cette chaleur au bout des doigts. Pourquoi pas frôler l'amour de nos premiers face à face. Tant pis pour l'agonie des mots qui passent. Aimer à mort, d'accord, mais surtout bien aimer d'abord. Si on valait de l'or, alors faut essayer encore. Aimer à mort, d'accord, mais surtout bien aimer d'abord. Si on valait de l'or, alors faut essayer encore. Allez! Pourquoi pas foncer en cœur et faire fi de nos impasses. Plonger du bord, et puis quoi si on bat la tasse. Pourquoi pas baisser les bras pour enfin pouvoir l'étendre. Tomber cette fois et se relever sans attendre. Pourquoi pas tomber d'accord pour encore tomber des nues. Se forcer fort de tout ignorer de l'issue. Pourquoi pas frôler l'amour de nos premiers face à face. Tant pis pour l'agonie des mots qui passent, quoi qu'on y fasse.
C'était Fredo pour moi, Frédéric Recrozio, un ami que j'aime beaucoup. Alors, on traverse à fond la bise cette pièce parce que Jacques Biollet, qui nous permet de visiter cette exposition à la galerie Plexus à Clermont-Montreux, a soif. Alors, il boit de l'eau et puis on repart vers un autre sens. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette galerie, d'abord les luminaires, les lustres sont 1900, tout y est beau, le style de votre peinture y est extraordinaire. On n'a encore pas parlé de la matière, on a parlé de la couleur là tout à l'heure, mais il y a quand même des endroits où des peintures sont davantage mises en valeur. Et ici, il y a des murs colorés. Ça vous a posé problème ?
Initialement, je me disais, tiens, c'est pas évident quand un mur est légèrement un petit vert, un petit rouge. Mais vous savez que dans ces demeures, c'était un peu une tradition de ne pas avoir des murs blancs. Et finalement, comme ces tons ne sont pas entiers, c'est des demi-tons, ça va très bien avec la peinture.
C'est rigolo parce que vous êtes appuyé pour dire demi-ton sur un piano à queue qui se trouve ici dans cette pièce et nous parlerons d'un objet extraordinaire qui nous fait de l'œil là-bas, qui est une grande œuvre que vous avez créée, mais là dans la troisième dimension. Peut-être revenons à cette matière incroyable du pastel, parce que c'est sablé, c'est délicat, vous parliez des couleurs tout à l'heure, mais ce côté... subtil. Il y a que vous qui faites ça. Il y a quoi ? De la gouache derrière ? Il y a du mystère ? Il y a de l'invention ?
Alors c'est vrai que il y a peut-être quelqu'un ailleurs qui fait ça, mais je n'en ai pas connaissance. Vous voyez, le pastel, pour moi, je l'ai toujours assimilé à quelque chose d'un peu négatif ou de trop léger ou fleur bleue. C'est un mot, moi, qui ne m'a jamais plu, pastel. Donc je n'ai jamais pensé que dans ma vie, je ferais du pastel. Mais comme je vous dis, j'ai eu ce coup de foudre dans les années 90. Et j'ai mis au point petit à petit, mais un peu par intuition, par tentative d'atteindre une certaine matière, une technique personnelle. En deux mots, je fais des fonds avec de la gouache. Et ces fonds donnent une certaine granulosité à mon support.
Mais uniforme ou déjà avec le grain du dessin que vous allez produire par-dessus ?
Non, c'est-à-dire que... Une technique ne doit pas être fixe et figée, sinon c'est un procédé. Donc je suis toujours en train d'utiliser des nouveaux fonds avec des nouvelles matières, de modifier la granulosité. Il faut, c'est comme un pianiste, il joue toujours le même morceau, c'est plus de la musique. Donc il y a toujours un tâtonnement par rapport au fond. Parfois j'ai un ami qui vient dans mon atelier, il me dit « mais c'est très bien, c'est superbe ce tableau ». Je dis « mais non, c'est un fond parce que je les bichonne, j'essaye d'obtenir des matières particulières, des granulosités particulières. Et ensuite il y aura un dialogue entre... mon pastel et ce fond. Parfois, il y a des moments difficiles parce que ça répond mal, etc. Ou parfois, c'est merveilleux. Je ne sais pas comment ça se passe. Il y a une magie, il y a un émerveillement de ma part parce que c'est comme si le fond et moi, on agit ensemble, si vous voulez. Et il y a le pastel au milieu. Il y a un dialogue, on se donne la main, d'une certaine manière, le fond, enfin le support et moi-même. Donc, c'est une alchimie assez étrange, qui me plaît beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'ai, comme tout peintre, comme tout artiste, un projet avant de commencer un tableau. Et le projet est souvent démesuré, inatteignable. Mais à travers le pastel, j'atteins bien sûr jamais le projet, mais je suis lancé dans une aventure, dans une découverte qui me fascine, qui m'amènera vers autre chose. Et c'est là qu'une technique est belle et qu'elle peut vous porter longtemps, c'est quand elle vous amène des découvertes ou des surprises que vous attendiez vraiment pas.
Jacques Biollet, vous avez une chance extraordinaire, c'est que non seulement vous tenez vos pastels, mais vous voyez vos pastels sans verre. Et là, entre moi et l'œuvre, il y a un verre, parce qu'il y a une protection nécessaire pour un pastel. Pourrait-on se passer de ce verre qui m'écarte un peu de la sensualité, ou si j'ai envie de toucher, moi, vos œuvres?
Oui. Alors, vous savez, toutes les œuvres, hormis les peintures à l'huile, sont derrière un verre. Les dessins, les lithographies, il y a toujours un verre, bien sûr. Et ça n'empêche pas d'aller vers l'œuvre, mais je pense que ce qui est important, c'est que l'œuvre soit bien éclairée. À ce moment-là, le verre, on l'oublie un peu, je crois.
Mais on pourrait quand même exposer, si le verre nous insupportait, cette œuvre que je trouve là, qui est celle de l'invitation de la galerie Plexus, qui est extraordinaire, un silence, il y a une beauté fabuleuse. On a envie d'aller toucher.
Oui, vous êtes un tactile, je vois.
Mais pas seulement, mais non, mais c'est tellement beau que c'est vrai, c'est comme une sculpture, on a envie de toucher.
Mais ce que vous dites me plaît beaucoup parce que, vous voyez, quand on voit un tableau, on dit « je le regarde ». Mais je crois que nos yeux, son corps, d'une certaine manière, nos yeux touchent. Et sans même que nos doigts effleurent, nos yeux touchent. Et je suis souvent frappé de voir les gens qui regardent les tableaux et ils frottent le pouce contre l'index et le majeur. Et ils disent « j'aime bien cette matière ». Ils ne l'ont que vue, ils ne l'ont pas touchée. Mais notre regard est capable de « toucher », entre guillemets, ou d'anticiper ce que serait ce contact. Donc je crois qu'il y a autant une fascination par la forme, par la couleur, que par la matière.
Je ne suis pas normal parce que j'ai envie de toucher.
Oui, bah écoutez, c'est peut-être le modèle qui vous attire. Je ne sais pas si c'est une femme qui tient une lettre, le bras tendu. Et elle a une sorte d'habit à moitié ouvert sur sa poitrine.
Un turban rouge, un fond bleu, une forme romane. Et puis des couleurs d'une chaleur. Peu de tableaux avec des couleurs froides. Il y a toujours l'opposition froid-chaud.
Alors vous parliez avant de l'exubérance des couleurs. En fait, je me retiens dans les couleurs. Il faut en fait retenir les effets avec le pastel. Parce que le pastel, il y a un drame ou un vertige, un gouffre, c'est le kitsch, c'est d'aller dans quelque chose de trop coloré. Alors le pastel nécessite de toujours en fait retenir l'effet. Et moi, je suis toujours dans une retenue malgré tout. Vous parliez des tons chauds et des tons froids. Réaliser un beau tableau dans des tons chauds, ocre, rouge, orange, c'est bien. Que dans des tons froids, c'est bien, il y en a, mais pour moi c'est une sorte de défi supérieur, plus grand, si on peut, dans un tableau avec des tons chauds, comme ici des orangés, introduire un bleu. Et là, le pastel me le permet. Vous voyez ce bleu qui est assez fort, qui vibre
sublime
derrière, là,
ouais,
qui me fait penser à certaines pierres précieuses.
Ou la couleur du bleu du pan dans les plumes.
Oui, exactement, oui. Cette couleur bleue, d'ailleurs, je l'obtiens qu'avec une superposition de couches, comme je vous l'ai dit, il passe avec cet orangé. En peinture à l'huile, je serais un petit peu en difficulté de créer cette chose-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a la matière qui permet ça. C'est quelque chose de tactile, un petit peu.
Jacques Biollet, on va partir à la course dans cette loggia extraordinaire de cette Villa Murillo. Ici, on voit les lumières du lac Saint-Trifon, Saint-Gingolf de l'autre côté. Non, Saint-Gingolf, pas Saint-Trifon. Et puis, je vais dans une autre pièce dans laquelle il y a une œuvre d'une facture totalement différente. Et là, la couleur nous saute pas à la gorge, mais la poésie y est totale. On a l'impression de voir un hernis, un coqueteau, un dessin, mais d'une sobriété extraordinaire.
Oui, je parlais du coloriste, et le coloriste a besoin de récréation, comme le musicien a besoin de silence. Et j'aime beaucoup faire des dessins avec simplement le crayon. Ici, c'est un dessin aquarellé, il y a un petit peu de jaune. Je dirais, c'est comme pour se faire pardonner la couleur, j'ai envie de dire. Mais c'est
pour
aussi
se calmer aussi.
Oui, c'est le silence. C'est le silence. Et dans une peinture, même si elle est forte en couleurs, c'est comme dans un discours, il faut qu'il y ait quelques silences, ou dans une musique. Et pour moi, j'aime pas passer d'une chose à une autre, comme je peux passer aussi d'un petit format à un grand format, d'une nature morte à un paysage, d'un paysage à un personnage. Et ce mouvement de balancier entre différentes formes d'œuvres est régénérant et m'apporte beaucoup.
Alors, ce qu'on a oublié de dire, c'est que certains de ces pastels sont immenses dans le format. Oui. Il y a presque des 2 mètres sur 1.
Oui, j'ai fait certains tableaux, mais ils ne sont pas ici, qui font 3 mètres. Il y en a un qui est à Sarajevo, qui a été fait pendant le conflit.
Qui est extraordinaire. D'ailleurs, on le retrouve dans les livres que
oui,
vous publiez.
Il s'appelle Sarajevo, enfance et guerre. J'en ai fait un autre il y a quelques années qui s'appelait Enfance et joie de vivre. C'est vrai que c'est inhabituel de faire des pastels aussi grands. Donc, quand je passe à des formats assez importants, je travaille sur des supports en bois qui ont une certaine rigidité et qui présentent beaucoup d'avantages par rapport au papier. Donc, je travaille beaucoup sur des supports de bois. Effectivement, c'est des beaux défis de partir dans une grande composition. C'est vertigineux parfois de faire une composition avec 10 ou 15 personnages.
Quand je dis Cocteau, Ernie, vous ne tombez pas de votre chaise, ça ne vous fait pas un choc ?
Bien, vous me flattez. J'aime beaucoup Ernie, qui est toujours, vous savez, plus que centenaire. Je crois qu'il a eu 103 ans, un dessinateur extraordinaire, virtuose.
Hors pair.
J'aime beaucoup. J'ai eu la chance de le rencontrer une ou deux fois. Et c'est un homme d'une formidable humanisme et que j'aime beaucoup. Et son œuvre est superbe et très belle, très belle.
Alors, l'économie de traits, c'est aussi cet art des années 40, 50, 60, avec Cocteau qui, de quelques traits, fait un visage, un regard, une gentillesse, une beauté, une bonté, une vision du bonheur. C'est ça que vous avez envie de nous transmettre, Jacques Biollet ?
Oui, chez Cocteau, il y a l'influence de Picasso. Hein, il y a ce côté aussi faune, le côté mythologique, etc.
Chez vous aussi ?
Oui, j'aime beaucoup Cocteau, mais je lui préfère son grand maître Picasso, bien sûr. Et pour revenir au dessin, je les vois souvent comme des esquisses, des choses puissantes par leur rapidité. C'est quelqu'un qui a beaucoup produit, Cocteau.
Et quelquefois, si on a la chance d'obtenir de vous, Jacques Biollet, une dédicace, c'est un dessin juste par-dessus, trois traits, un œil, un regard. Moi, je trouve ça extraordinaire, avec rien de donner tout.
Oui, c'est intéressant de faire un dessin en quelques traits, comme ça. Ça permet d'aller à l'essentiel, parfois. Il y a des œuvres qui peuvent être faites en quelques instants, qui ont peut-être une fraîcheur qu'une œuvre très élaborée n'a pas.
Puis vous restez comme ça en l'air avec votre voix.
Voilà.
Bon, on va écouter.
Je vous vois préparer la prochaine question.
Pas du tout. Je voulais vous faire écouter Liz Green. C'est une chanteuse de folk britannique. Elle chante Midnight Blues.
Night gets darker, no, not like it ever was. And those waves are hitting harder against the rocks, against the shore. But I'm fading fast, I'm fading fast tonight. Just say those words, I wish I heard. My eyes start to get so white and wild. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. The night gets colder, now not like it ever was. And those men are pushing harder against my thighs, against my throat. And I'm fading fast, I'm fading fast tonight. Just say those words, I wish I heard. My eyes start to get so wide and well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. Just swaying over everything under the dance hall light. I spy that man, he want that woman, I want his wife. But I'm fading fast, I'm fading fast tonight. Look over your shoulder, see them boys learn how to fight well. You know it's gonna be a whole lot of fun tonight. I said it's gonna be a whole lot of fun tonight. The night creeps faster, now on bended hands and knees. And as the light breaks in, I'm lying between the wall and my lover's knees. But I faded fast, I faded fast tonight. And though I'm broken tired, I've had one hell of a ride. Well, you know it's gonna be a whole lot of fun tonight.
You know it's gone and then a whole lot of fun tonight.
C'était Liz Green, Midnight Blues. Ici, pour cet intérieur, dans la Villa Murillo, à Clarens, le lac devant cette tache de plomb durant la nuit qui va briller, qui va nous apporter sa lumière demain. Vous êtes un homme, Jacques Biollet, qui va devant les paysages pour les peindre. J'imagine mal, là-bas au fond, je vois un pastel immense de Toscane. On peut pas faire ça dehors.
Non, quelques esquisses peuvent suffire. Ensuite, c'est le travail en atelier qui va faire qu'on va élaborer. Par exemple, le tableau dont vous parlez, là, c'est un peu particulier parce que je l'ai commencé en 1997, donc il y a quelques années.
On le regarde à 15 mètres. Hein.
Voilà.
Mais il est extraordinaire, il nous parle. Hein.
Oui, c'est un paysage de Toscane. Et il est resté dans mon atelier, et il y a certaines choses qui ne me convenaient pas. Et puis, je l'ai repris en 2011. Voilà, il y a des choses qui prennent du temps. Et puis, je l'ai terminé en 2011 et il me plaît mieux maintenant. Voilà pourquoi il est exposé ici.
C'est la grande chance aussi du pastel, c'est-à-dire qu'on peut superposer, puisque nous l'expliquions tout à l'heure, et on peut apporter de la lumière, des choses sombres, oui. Mais on peut revenir derrière, par-dessus.
Oui.
Et d'ailleurs, l'huile, on peut faire ça.
Yes.
Mais là, le fond va transparaître. Ce qui s'est passé oui. autrefois va revenir.
Oui, bien sûr. Mais recommencer ou poursuivre un pastel, c'est intéressant parce qu'il y a il y a un acquis qui est déjà là. Et puis, on peut aller plus loin vers la lumière. On peut continuer cette montée vers la lumière. Mais parfois, c'est en assombrissant un tableau qu'on a plus de lumière. Là, par exemple, le premier plan, je l'ai un peu assombri, ce qui fait que le deuxième plan, qui est plus coloré, est mieux mis en valeur, vous voyez.
C'est-à-dire que la lumière, c'est les champs dorés
voilà.
Qui nous sautent contre. Et devant, alors une pièce extraordinaire. Là, vous avez travaillé la troisième dimension et c'est une aventure inouïe. C'est une fontaine ici, à l'intérieur de la Villa Murillo, en circuit fermé, superbe, en bronze, avec un petit garçonnet et une fillette qui jouent devant cette fontaine. Et je ne savais pas que vous étiez sculpteur aussi, Jacques Biollet.
Oui, la première chose que j'ai réalisée, c'est un chemin de croix pour l'église Sainte-Catherine à Sierre. C'était en 1996, c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Et j'ai fait en fait différentes choses en bronze. Et là, c'est une fontaine, c'est deux enfants. Un petit garçon qui est assis sur ses fesses et il a une petite fillette qui lui grimpe sur l'épaule pour atteindre effectivement la vasque d'une fontaine et on entend peut-être l'eau qui coule de cette fontaine. Voilà.
C'est alors on va aller l'écouter si vous voulez bien.
Voilà.
Ouais, et puis il y a des feuilles.
On n'entend pas, les cris des enfants, mais voilà, c'est deux petits
enfants. Oui, c'est bien, c'est enfin des enfants qui ne crient pas.
Deux petits enfants qui s'amusent et qui ont... Vous savez que l'eau, universellement, attire les enfants. Alors, voilà, ils ont eu ce petit mouvement spontané d'aller toucher l'eau.
Alors, c'est un bronze, mais quelle aventure pour arriver à un bronze, parce que c'est d'une légèreté, c'est d'une grâce extraordinaire, mais en plus, pour que ça tienne le coup, jusqu'à ce que ce soit un bronze, ça a été d'abord une terre cuite.
C'est une terre. Elle
n'est pas cuite.
Terre, voilà, c'est une terre qu'on travaille, on la recouvre pour qu'elle ne sèche pas entre les séances. Et j'ai travaillé un certain nombre de mois sur ces terres. Et ensuite, il y a le travail du fondeur qui vient prendre l'empreinte, qui fait une réplique en cire. Ensuite, je viens retoucher les cires, ça c'est important, parce que tout ce que vous faites sur la cire va se retrouver dans le bronze. Et ensuite, il y a la fusion, il y a la ciselure, etc. Jusqu'à la dernière étape qui est la patine.
Alors justement, la patine, c'est aussi la couleur.
Oui.
Et cette couleur verte grisée est absolument extraordinaire. Alors ça, c'est une technique très ancienne.
Oui, c'est millénaire. L'âge du bronze, c'est bien avant que nous soyons de ce monde. C'est d'ailleurs extraordinaire ce que les gens de ces époques anciennes réussissaient à faire. Maintenant, on a des fours qui permettent d'obtenir une telle température. À l'époque, il fallait chauffer avec du bois, etc. C'est prodigieux ce qu'on faisait à l'époque. Là, pour revenir au bronze et à la patine, avec différents acides et en chauffant au chalumeau, on peut obtenir différentes réactions avec le bronze. On peut obtenir une patine noire ou rouge ou brunâtre. Là, c'est une patine d'un léger vert, comme ça, avec quelques accents un peu dorés. Et j'aime ça pour sa clarté, pour sa fraîcheur. J'aime beaucoup cette patine-là. C'est celle que j'utilise habituellement dans les bronzes que je fais.
Alors, la plupart du temps, on emploie des mots sans savoir ce qu'ils recouvrent. Bronze, ça veut dire quoi ? C'est un alliage de métal.
Oui, c'est un alliage de cuivre et d'étain, sauf erreur. Et
sauf erreur, vous n'en êtes
oui,
pas certain.
vous savez, j'en parle toujours effectivement de bronze, mais je ne pourrais pas vous dire la proportion. Alors, je suis un mauvais chimiste, mais effectivement, c'est un alliage qui existe depuis très longtemps et qui est très utilisé parce qu'il permet aussi, avec, comme je vous dis, avec les patines, d'obtenir différents effets.
Pourquoi un artiste peintre a besoin de la troisième dimension ? A-t-il besoin de créer des œuvres tridimensionnelles, éternelles, dures, solides, qui vont défier la météo dans un jardin, dans un parc ?
Mais vous savez, le peintre, comme vous le dites, est confronté aux deux dimensions. Il est confronté aussi à une part d'illusion, puisqu'il essaye quand même, à moins qu'il soit un peintre abstrait, mais dans l'art figuratif, on essaye quand même de suggérer la profondeur, alors qu'on est sur un plan. Et quand vous faites une fillette comme ça, avec sa légèreté, c'est absolument fascinant parce que c'est comme si vous basculez dans le tableau, vous allez de l'autre côté, vous pouvez tourner autour de la pièce. Et pour quelqu'un qui est dans le plan, dans les deux dimensions, ça a un effet extraordinaire. C'est vraiment formidable. C'est enthousiasmant et c'est fascinant. Mais je vous dirais une autre chose, c'est que quand vous faites de la sculpture, il y a toujours des problèmes statiques. Il faut que ça tienne, il faut qu'il y ait des tubulures, etc. C'est tout un problème parce que rien ne tient tout seul. Alors quand vous revenez à la peinture, vous pouvez faire tenir n'importe quoi, vous pouvez faire tenir un éléphant sur un dé à coudre, eh bien à ce moment-là, vous estimez quand même le peintre est aussi avantagé par rapport au sculpteur puisqu'il n'a pas ces problèmes de statique ou de problèmes bassement matériels.
Jacques Biollet, on continue de parcourir dans la Villa Murillo ses œuvres, en même temps ses pièces, ses extraordinaires parquets qui grincent, ses stucs au plafond, c'est vraiment très beau. On va monter à l'étage, mais j'aimerais vous faire un reproche, puis finalement, c'est aussi le rôle de l'intervieweur, c'est que votre travail est si beau, il sublime tellement la beauté, les formes, la géométrie, la délicatesse, l'humanité, la féminité. Quelquefois, on se demande ce que vous êtes en train de nous dire parce que c'est presque trop décoratif quelquefois.
Oui, alors, bon, moi, je ne vois pas les choses comme vous venez de le dire. Pour moi, je suis en quête, je dirais, d'harmonie. C'est peut-être ça, pour moi, le maître mot. Et puis, c'est vrai que quand c'est harmonieux, on dit que c'est beau. Mais je suis plus en quête d'équilibre, d'harmonie, que de beauté. Bien sûr, la beauté fait partie du jeu. Tout ça, ce sont des mots.
Mais s'il y avait de la méchanceté ou de la provocation, il n'y aurait pas cette expression décorative que je suis en train d'employer.
Bien sûr, le mot décoratif est péjoratif. Bien sûr, jamais ce mot ne me vient à l'esprit. Mais je dirais que quand notre âme, notre cœur, notre visage, nos yeux sont en face de quelque chose qu'on dit beau ou qu'on dit harmonieux, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a un effet formidablement apaisant. C'est comme si notre être est fait pour aller vers cela. Alors comme nous ne le trouvons souvent pas d'ailleurs dans la vie, cette harmonie, cette beauté, ce vers quoi nous devrions aller, ce qui nous est destiné, nous ne le trouvons pas, alors dans l'art il est possible de l'atteindre. Alors pourquoi s'en priver ?
Vous êtes un séducteur, Jacques Biollet. On monte dans l'escalier de la Villa Murillo pour aller au deuxième étage. Vous êtes un séducteur. Vous nous montrez que la beauté, et vous êtes quelqu'un qui parle bien, qui explique bien, qui exprime bien, qui écrit bien. Mais vous êtes un séducteur. Vous avez envie de nous embarquer dans votre monde esthétique, votre beauté, celle que vous recréez.
Mais alors, je vais un peu vous contredire parce que je crois...
Encore ?
Oui, je crois que la laideur, la colère, le crime... l'odieux est très présent dans notre monde. Vous voyez, actuellement, je suis comme vous ces populations en Syrie qui sont massacrées. Personne, semble-t-il, peut faire quelque chose. C'est quotidiennement que nous sommes confrontés au malheur d'un enfant, à la maladie, à la mort, aux assassinats, etc. Peut-être pas dans notre vie la plus proche, mais sans cesse, nous faisons le constat que l'humanité déraille par rapport à ce vers quoi elle devrait aller. Donc moi, je me sens plutôt dans un monde qui a encore beaucoup à faire pour aller vers une sorte d'harmonie. Et si on peut, dans nos vies aussi, dans nos relations interpersonnelles ou dans notre couple, dans notre famille, ou Dieu sait où, sécréter un petit peu d'harmonie, je pense que c'est vers ce vers quoi il faudrait aller.
Ouais, alors on est devant l'escalier, il y a des vitraux, enfin cette maison est d'une beauté incroyable. Et ici sur ce mur jaune, une aquarelle, mais d'une simplicité extraordinaire. Et elle va tellement bien là, elle devrait y rester pour, oui, pour l'éternité, non?
Oui, c'est vrai que cette aquarelle a un petit fond jaune maïs un petit peu. C'est un visage de trois quarts d'une femme, un peu suggéré. Et effectivement, la teinte de ce mur semble bien convenir à cette œuvre.
Des femmes posent pour vous ou vous fantasmez les femmes?
C'est-à-dire que j'ai certaines personnes qui peuvent poser pour moi, mais c'est un point de départ. À partir de là, on peut rêver. Quand je travaille avec un visage assez classique, c'est formidable parce que je peux aller dans plusieurs directions différentes.
C'est bon la vie. C'est une chanson de Paul Simon. C'est Nana Mouskouri et Alain Souchon qui reprennent ce thème éternel. C'est bon, c'est très bon la vie.
Intérieur, une émission de Daniel Fazan.
Doucement, me bouscule pas, laisse-moi prolonger l'aube et chanter n'importe quoi.
Vive la vie, que c'est bon la vie.
Je suis libre comme l'air qui prête à tout.
La folie serait de ne pas faire de folie.
Vive la vie, que c'est bon.
C'était Nana Mouskouri en duo avec Alain Souchon pour continuer notre duo à nous. C'est bon la vie, c'est beau aussi, c'est nu. Ce canapé par exemple ici est la Villa Murillo. C'est extraordinaire comme mise en place aussi des œuvres que l'on peut voir jusqu'au 22 avril. Ce canapé dans les roses, très... Très quoi quel style, Jacques Bionnet?
Un style harmonieux.
Non, directoire pratiquement, ou même paysan, ou simple. Oui. Et juste au-dessus, un tableau oblong immense, très, très beau, avec une femme nue, couchée. Et c'est extraordinaire de mettre ce tableau là.
Oui, c'est le galeriste Bernard Chassot qui a fait l'accrochage. Et il a eu la très bonne idée de mettre ce tableau tout en longueur, c'est une femme étendue. Le tableau fait peut-être 1,80 m de long. Au-dessus de ce meuble, c'est très beau. C'est une très belle idée d'associer ces deux éléments.
Mais exposer, c'est aussi le travail du maître, c'est-à-dire de l'auteur des œuvres. Vous y jouez un rôle quand même essentiel, parce que toutes les œuvres ne sont pas mises en valeur pareillement suivant où on les met et à quelle paroi on les associe ou décore.
Oui, un accrochage se fait par étapes. Il y a une première étape, ensuite on voit ce qui est un peu dissonant. Vous voyez encore la recherche de l'harmonie, vous avez raison. Un tableau qui est mal placé va mal vibrer aussi. Donc c'est un petit tâtonnement pour aboutir finalement à un bel accrochage.
Vous conseillez vos clients de mettre ici plutôt que là, pas sur le frigo, l'œuvre qui vient d'être achetée?
Alors vous voyez, quand quelqu'un acquiert un tableau, vous ne savez pas pour quelle bonne raison il l'acquiert, vous ne savez pas ce qu'il va en faire.
Mais ça vous interroge et vous avez envie de le suivre?
Non, pas du tout, parce que ça ne m'appartient pas, pourquoi il a été acquis. C'est, d'ailleurs, quand les gens vous parlent du tableau qu'ils ont acquis, vous voyez qu'ils ont acquis un autre tableau que celui que vous avez fait. Donc,
pourquoi? Parce qu'ils le décrivent d'une autre manière?
Parce qu'ils l'intègrent, non, dans leur propre histoire. Moi, le tableau est intégré dans mon histoire et ensuite il transite dans une autre histoire qui est la leur. Donc, je ne vais pas avoir le bras assez long pour indiquer ce qu'ils devront en faire.
Jacques Biollet, on poursuit cette visite et on terminera peut-être dans cette pièce parce qu'il y a suffisamment à dire. Alors, qui est intéressé par des œuvres, notamment de verre, sera très intéressé de venir voir aussi à la Villa Murillo quelques belles pièces. Ici, sur un mur vert de gris, alors la chance extraordinaire d'y exposer justement des couleurs complémentaires, des rouges, des violets, des bleus, oui. C'est absolument superbe. Et là, un très très grand format.
Oui, c'est un grand tableau qui est sur ce fond un tout petit vert. Ça me fait penser d'ailleurs cette ambiance qu'on a dans cette Villa Murillo à Montreux. Ça me fait penser un peu au musée de l'Ermitage, vous savez, où vous avez ce style de murs qui sont un petit peu teintés. Alors ça, c'est un grand tableau, effectivement, qui fait 1,80 m de haut. C'est un personnage féminin qui s'avance et en dessous, il y a une espèce de gnome masqué qui est à ses pieds.
Ici, de nouveau, des personnages, des femmes. Là, l'une des deux paraît à peine plus âgée. C'est toujours, quand même, dans votre travail, Jacques Biollet, la beauté de la jeunesse, que ce soit des hommes ou des femmes, la jeunesse pérenne.
Oui, c'est une belle remarque que vous faites là. Mais vous savez, quand je vois certaines femmes, puisqu'on parle essentiellement de femmes, mais c'est le cas aussi pour les hommes, j'ai l'impression qu'une personne est à l'apogée de sa beauté, pas forcément à 20 ans ou à 25 ans. Parfois, quelqu'un est à l'apogée de sa beauté à 45 ou à 50 ou à 8 ans. Ça varie. Il y a des gens
Mais vous ne dites pas, comme par hasard, vous ne dites pas 80.
Si, il y a des gens qui sont absolument somptueux avec une belle barbe et des rides. Là, je parle d'hommes, effectivement. Mais il y a des gens qui sont splendides à 80 ans aussi.
Je ne les vois pas dans vos tableaux.
Mais il faudrait que je m'y mette, alors.
Non, mais c'est vrai, la beauté, là, c'est quand même idéalisé total.
Non, je ne suis pas pour l'idéalisation. L'idéalisation, c'est la désincarnation pour moi. Au contraire, je préfère être dans quelque chose d'incarné, de vivant, et pas dans l'idéalisation. L'idéalisation, c'est comme si le tableau nous quitte, il s'éloigne de nous si on est dans l'idéalisation. Donc je préfère quelque chose qui nous parle parce que c'est présent, parce que c'est dans une sorte d'actualité de la présence.
Alors, ce qu'il y a d'étonnant quand on voit vos tableaux, c'est la chorégraphie des membres, des mains, des pieds, les regards croisés. Il y a une architecture et une chorégraphie. Alors, à la fois, les œuvres sont immobiles, mais elles suggèrent constamment le mouvement ou la beauté du corps.
Oui, alors on parlait de visage, on parlait de corps, mais il y a un élément très important, vous venez de l'évoquer, c'est les mains, justement. Les mains sont c'est la terminaison du bras, c'est là que se situe le mouvement. Quand je fais un portrait ou un personnage, toujours j'associerai les mains, parce que les mains sont vraiment l'élément mobile, c'est ce qui va donner de la vie, de la vivacité. Je fais assez rarement seulement un visage. Donc il y a toute une dynamique qui est donnée effectivement par la chorégraphie des mains et des bras. L'être humain, c'est en mouvement.
Mais en même temps, c'est une architecture absolument précise, idéale, magnifique quand elle est belle.
Oui, je suis d'accord avec vous, à part le mot idéal, mais j'insiste. Mais effectivement, le corps humain, comme le corps d'ailleurs d'un chat ou d'un tigre, est constitué par des millénaires ou des millions d'années. Et il y a une harmonie, il y a une architecture, comme vous le dites, qui n'est pas née de hasard. D'ailleurs, on le voit, si on a un petit problème à notre dos, très vite nous aurons mal aux pieds, etc. Nous sommes savamment constitués et un petit rien peut nous déséquilibrer. Alors quand je peins ou je dessine des personnages, je pense beaucoup à cet équilibre qui est inhérent à la personne humaine. Et il s'agit, non pas d'en être esclave, mais de le respecter. Parce que le peintre, il n'est qu'une toute petite chose par rapport à cette longue évolution qui fait qu'un corps humain existe.
Alors, ce qui est étonnant dans notre parcours à nous deux, c'est que nous nous sommes rencontrés il y a quelques années, et à l'époque, vous écriviez un roman qui est paru depuis, qui s'appelle « Dans la rue » de Balthus. Et ce roman, je l'ai lu, c'est étonnant parce que vous extrapolez, c'est une vraie histoire complètement folle. Alors que Balthus écrivait à son épouse, Madame de Watteville, comment s'appelait-elle son prénom ?
Antoinette.
Antoinette, il lui écrivait... Bon, il se passe rien dans ce tableau, et vous, vous en faites 400 pages. C'était absolument édifiant. Vous êtes quelqu'un qui raconte bien, qui raconte formidablement juste les choses. Mais là, en l'occurrence, ce tableau, c'est vrai qu'il me laisse indifférent, et vos œuvres me provoquent au niveau des questions. Vous êtes trop humble pour célébrer Balthus et ne pas vous citer ?
Balthus, c'est absolument passionnant à observer, parce que je crois que c'est un peintre qui a été... Qui est souvent mal perçu, mal compris. On le regarde par le petit bout de la lorgnette. Et ce tableau, qui a donc à l'origine de ce livre, La rue, il s'intitule La rue, il est absolument fascinant. Il y a 9 personnages. Et j'ai montré à quel point c'était l'affrontement entre le monde de l'adulte et le monde des enfants. Je pourrais en parler longuement. Quand on me lance sur le sujet, ça risque d'être long. Mais on voit très bien dans ce tableau comme les enfants sont... détournent le regard, sont soit pétrifiés, sont à l'égard, et les adultes ont un côté, comment dire, effrayant. Et si j'ai pu écrire ce livre, c'est que, à partir des années 2000, il était possible de lire 500 pages de correspondance de Balthus quand il avait 25 ans, donc à l'époque où il a peint ce tableau, en 1933. Alors quand on le voit parler, par exemple, de son aversion pour ce qu'il appelle l'obscénité des adultes, avec leur hypocrisie, on peut mieux entrer dans ce qui a peut-être généré des colères et des cris qui s'expriment dans ce tableau, mais à bas bruit, parce que d'une certaine manière, ces émotions qui prennent forme dans ce tableau, ils peuvent exister parce qu'il y a des phénomènes de, comment dire, il y a des procédés qui permettent de cacher ce qu'on montre d'une certaine manière et de montrer ce qu'on cache, vous voyez. C'est passionnant d'observer ça. Et j'ai essayé de le faire en m'appuyant sur ce que dit Balthus dans ses lettres.
Il y a aussi une explication que l'on peut donner, saine, de sa fascination pour les jeunes filles prépubères qui posaient pour lui et qui le regardaient, selon les spectateurs de ses tableaux, pas toujours d'une manière innocente.
Alors voilà l'image d'Épinal, vous êtes en plein dedans.
Excusez-moi.
En 1933, quand il peint ce tableau, il n'a pas encore magnifié cette espèce de figure salvatrice qui est la figure de la jeune fille, parce que la figure de la jeune fille permet de se distancer du monde des adultes, du monde de la génitalité, et d'atteindre pratiquement ce qu'il disait toujours, une sorte de monde angélique. Alors bien sûr, on lui a toujours dit, vous n'allez pas nous la faire, celle-ci, parce que l'adulte voit de l'érotisme dans cette fillette. Mais Balthus, si on est fidèle à ce qu'il dit, si on essaye de le comprendre, il a vu dans cette figure féminine de la jeune fille, qui n'est pas encore entrée dans la génitalité ou la sexualité, une figure permettant justement de ne pas entrer dans ce monde des adultes qui peut être, pour le regard d'un enfant qu'il a toujours perpétué dans son œuvre, quelque chose d'obscène.
Jacques Biollet, on va se retirer de cette pièce, on va se quitter dans un petit moment. On a vu le sculpteur, on a vu le dessinateur, on a vu le peintre, le pastelliste. On sait maintenant désormais que vous êtes romancier, que vous écrivez. Vous savez faire beaucoup de choses. Vous êtes un amateur en quoi ? En rien ? Vous êtes un spécialiste en tout ?
Je suis un amateur en vie. Vous savez que le mot amateur est très beau puisqu'il
vient du mot aimer.
Étymologiquement, voilà. Donc, je dirais, il s'agit de croquer la vie. La vie est brève, même si elle dure à peu près un siècle. On en voudrait peut-être plus. Donc, il s'agit de croquer ce qui est beau. Moi, je suis un gourmand ou un amateur de la vie, voilà.
Alors, on continue cet escalier. Vous me mettez à la porte parce que on approche quand même de minuit. Vous êtes un homme heureux qui n'a pas envie de créer du malheur chez les autres en leur apportant cette recherche d'harmonie et d'équilibre. C'est ça votre rôle, votre mission sur Terre, Jacques Biollet ?
Eh bien, quand on a une mission, on la définit. Moi, je n'ai pas défini de mission. Je ne suis pas... Je ne vais pas faire de prosélytisme, mais simplement un peintre, vous savez, il ne choisit pas tellement ce qu'il fait finalement. C'est comme le pommier ne choisit pas de faire des pommes, j'ai envie de dire. Alors, ce que je fais, bah, ça émane de ce que je suis. Et j'ai remarqué au cours de ma vie que s'il y a des périodes troublées, difficiles, j'ai encore plus envie de trouver quelques accents d'harmonie, encore plus fort. Voyez. Alors quand les choses vont bien, l'harmonie ou le désir de beauté arrive naturellement. Et quand il y a des remous ou des troubles, je pense que c'est encore plus important de trouver cette espèce d'oasis qui permet à la vie de mieux s'épanouir.
N'oubliez pas d'éteindre derrière vous, Jacques Biollet. C'est bientôt minuit à la Villa Murillo. Oui. Je crois qu'il va y avoir une belle au bois dormant qui va se réveiller, ça j'en suis sûr. Là, pour l'instant, on rencontre un jeune homme, un Anglais, qui porte un nom italien et qui vit en France. Il s'appelle Pierce Faccini et il chante Dreamer. Alors dormez bien et rêvez bien.
Bonsoir, Daniel.
Bonsoir. On écoute Pierce Faccini. Bye bye. Au revoir.
The ground. I saw towering flames when it came crashing down. I saw a stranger's eye, or was it my own? I saw the mirror break and I was left alone. I dreamt the dream was lying. I dreamt that the dream was wrong. I dreamt the dream was dying. I woke in a dream storm. Great pillars fall, opening up the skies. I saw foundations raise, soar with my own eyes. I saw my own head wound, strangely bathed in light. I saw the patterns dance like birds into the night.
Sur Radio Suisse Romande, la première, à la Villa Murillo de Clarens-sur-Montreux, ou Clarens-Montreux, il va être minuit dans quelques secondes, on se quitte ici et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, bonne nuit, il est minuit.